Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie expliquée par mon père. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit exercice différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai posé des questions sur... Non, en fait j'ai posé la question sur Twitter, sur notre hashtag Institut des Libertés, et je vous ai demandé quelles étaient vos questions et j'en ai noté la plupart, pas toutes, que je vais poser aujourd'hui à Charles. C'est un exercice qu'on essaiera de faire à peu près toutes les 5-6 émissions. D'abord pour voir si vous suivez, puis on remassera les copies. Et ensuite pour voir, ben en gros, si justement vous avez des questions pour rendre ça un peu plus interactif. Donc, j'ai essayé de séparer ça entre questions structurelles, questions monétaires et questions politiques. Je vais commencer par les questions structurelles concernant la France. Et surtout, dans le futur, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser sur le site ou à nous les poser en direct sous les vidéos. Voilà. Donc, bonjour papa.
Bonjour ma fille.
Donc, je vais commencer aujourd'hui par quelques questions donc dites structurelles. La première est de Monsieur Frexit, qui te demande, qui te dit, voilà, Charles Gave est souvent critique de l'État stratège. J'aimerais connaître son point de vue dans l'affaire Alstom, Technip ou Alcatel. Et par ailleurs, quel devrait être le rôle des États dans la guerre économique mondiale?
Alors, c'est une question intéressante, mais je vais commencer par une incidente. Vous voyez, la famille Gave a repris un club de rugby il y a 3 ans qui était en pleine déconfiture. C'était épouvantable, qui était un des plus grands clubs de France, qui était Biarritz. Et en l'espace de 3 ans, en prenant les bonnes mesures, nous avons réussi à le faire réémerger. Et aujourd'hui, il est en finale du championnat de France de deuxième division. Si nous battons Perpignan, nous serons en première division l'an prochain. C'est simplement pour vous montrer que quand on met les gens,
En deuxième division.
on montera en première division. On est en deuxième
Ah
division.
oui,
On
en top
montera
14.
en top 14. On montera en top 14. Et c'est simplement pour montrer que quand on prend les bonnes mesures et qu'on met les gens comme il faut, qui prennent les bonnes mesures sans vous embêter tous les jours à demander des détails, c'est pas tellement difficile de retourner une situation qui était quasiment désespérée. Parce qu'il y a 3 ans, il était à la limite d'être soit de ne plus exister, soit de redescendre encore dans les divisions inférieures, ce qui pour le Biarritz Olympique n'était pas possible. Donc une fois de plus, il se fait simplement qu'il y ait une volonté et que cette volonté s'applique avec fermeté. Et en 3 ans, ben, les résultats sont là. Donc je vous dis ça parce que je suis très fier.
Mais alors donc, attends, recentre maintenant sur Alstom. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Alstom? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire?
D'après ce que
De ce
j'ai
que tu en as
compris,
compris, hein.
qu'est-ce que j'en ai
Parce qu'il y
compris?
a aussi ce qu'on nous dit et ce qu'on comprend nous avec les
D'après ce que j'ai
éléments.
compris, Alstom était un des fleurons de notre industrie nucléaire.
Voilà.
Mais aussi, ils étaient dans d'autres choses. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens au pouvoir ont décidé, pour des raisons bassement politiques, que le nucléaire, ça n'avait plus d'intérêt.
Alors qu'on était vraiment en
On était
avance et que
dans.
c'était un domaine dans lequel on faisait vraiment la
La France
différence,
était
nous.
un domaine d'excellence. Et donc, ils ont commencé à vendre toute une série d'activités pour littéralement lever du cash, en se disant, on va vendre des trucs qui n'ont pas de futur.
Donc ils ont vendu à la découpe
Ils ont vendu à la découpe,
comme faisaient les traders dans les années 80.
comme faisaient les traders, et ils ont vendu ça à la découpe. Et à mon avis, ils ont vendu pas cher les meilleurs éléments, ceux où nous étions les meilleurs. Et là encore, ça me rappelle l'état stratège, parce que cet état soi-disant stratège qui disait on va abandonner le nucléaire pour les éoliennes ou l'énergie solaire, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas, quiconque connaît un peu les sujets sait que c'est du n'importe quoi. Donc c'était pour un motif bassement politique, comme de fermer Fessenheim,
Parce que
pour plaire aux Verts.
en fait, si ça avait été, si c'était resté privatisé, ou si ça avait été racheté par une entreprise tierce,
Oui.
sachant que ça faisait des profits, on aurait gardé ses emplois en France et on aurait conservé la partie
Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu la part
profitable.
profitable, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu une partie importante du domaine nucléaire à General Electric.
Electrix.
qui est une société américaine, qui elle-même a failli faire faillite un an ou deux ans après.
Et oui,
qui n'a rien respecté du cahier des charges que l'avait donné quand elle avait, parce que comme elle était en train de faire faillite, elle pouvait pas.
D'ailleurs, à ce jour, leur bilan est toujours un peu shady. Et tous les ans, vers août, juillet, quand ils déposent les bilans, il y a des trucs sur Internet qui disent oulala, General Electric, ça va sauter.
Ça va sauter. Donc, General Electric se retrouve. Alors, ils ont donc vendu, mais c'est pas le premier, parce que qu'on réfléchisse à ce qui s'était passé avec Pechiney, qui était un des leaders mondiaux de l'aluminium, qu'on a vendu au moment des années Mitterrand, si mes souvenirs sont exacts, non sans qu'il y ait des opérations d'initiés qui ont permis à beaucoup de gens dans l'entourage de Mitterrand de gagner beaucoup d'argent. Ils ont vendu Pechiney, puis ensuite on a perdu les ciments Lafarge, qui ont fusionné avec une entreprise suisse, et maintenant qui se retrouve donc cotée en Suisse. Donc ça fait des années que ces soi-disant banquiers d'affaires vendent, j'imagine en touchant des commissions très grasses, des actifs qu'on avait mis un siècle ou deux à développer, qui étaient souvent des actifs du secteur privé d'ailleurs, qui avaient été développés en liaison avec le secteur public, mais qui étaient des actifs du secteur privé, et qu'on a vendu pour 2 francs de sous, mais les commissions n'étaient pas 2 francs de sous. J'ai vu que, par exemple, dans l'affaire Alstom, l'argent qui avait été payé aux consultants et aux juristes, ça a été absolument inimaginable ce qu'ils ont payé en frais de... Alors, je crois que... on se retrouve là devant... à la fois un état stratège qui résonne comme une planche, qui fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire, et une très belle explication du capitalisme de connivence, où on voit très bien qui a gagné de l'argent sur la découpe, on voit pas très bien quel était l'intérêt national français. Donc, pour moi, il faut regarder un petit peu les grands commis de l'État qui étaient avec d'abord Pompidou, ensuite avec De Gaulle, qui avait monté tous ces systèmes, qui étaient souvent d'ailleurs des corps des mines, des types. Et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont presque l'inverse. C'est-à-dire des gens qui, à la place de bâtir et de prendre sur le long terme, essayent d'encaisser des commissions sur le court terme. Quand j'étais, je vais donner un exemple personnel parce que ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, quand j'étais dans ma vie précédente où j'avais monté une société de conseil qui s'appelait Secogest, j'allais voir des clients dans le monde entier avec qui je parlais. Et une grosse partie de mes idées venait de ces rapports que j'avais établis en l'espace de 10-15 ans avec les clients. Et puis, on s'est mis à gérer de l'argent. Et l'argent qu'on gagnait sur notre gestion de portefeuille devenait 10 ou 100 fois supérieur à ce qu'on gagnait sur le conseil. Et donc, j'avais avec moi deux associés qui avaient fait la Harvard Business School. Ils ont coupé. Ils ont dit, ça ne nous rapporte pas assez. On coupe, on arrête Secogest.
Bah, ça paraît logique.
Ça paraît logique, sauf que toutes mes idées venaient des contacts que j'avais avec les clients.
Ah oui, d'accord.
Et donc, ils mesuraient la valeur ajoutée simplement par le pognon qui rentrait dans la boîte, sans se rendre compte qu'une partie importante des résultats que j'obtenais venait d'un truc qui ne me rapportait pas beaucoup, mais qui me rapportait beaucoup intellectuellement.
Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir, eux, de leur côté.
Ils ne peuvent pas le savoir, eux, de leur côté, mais ils auraient dû comprendre que c'était comme ça que je fonctionnais.
Oui,
et quelque part, ben, la France avait développé une technologie nucléaire qui était la meilleure du monde, et en l'espace de 10 ans, en vendant ça à l'encan, etc., ben maintenant, on n'a plus rien, et on se retrouve, on n'est plus foutu, Flamanville, ça fait 10 ans qu'ils essayent de la finir et qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ça ne sert plus à rien.
Alors,
il n'y a pas... Pour mener une affaire, il faut avoir une vision holiste. C'est-à-dire que parfois, il y a des gars qui travaillent dans une affaire, on sait pas très bien ce qu'ils font, mais s'ils s'en vont, ça marche plus du tout et personne ne comprend pourquoi. Donc, la première règle de la gestion, c'est s'il n'y a rien de cassé, ne changez rien, quoi.
If it's not broken, don't fix it. Alors, attends, parce que je voudrais... on parlait du nucléaire, du coup, ça m'amène sur une deuxième question qui revient souvent, qui est la vision malthusienne de notre monde. Et est-ce que tu penses, toi, que le monde est devenu malthusien. Et est-ce qu'on doit se préparer à cela ou est-ce que tu penses qu'on va trouver des solutions aux pénuries d'énergie puisqu'on parlait du nucléaire, la fin du nucléaire et le fait que les bobos nous entraînent vers les éoliennes
Qui marcheront pas,
qui marcheront pas puisque par définition c'est QFD.
Elle ne marche qu'une partie, elle marche que 25% du temps. Donc,
après, on a le problème de stockage d'énergie, de rapatriement
y a pas
d'énergie.
Il n'y a pas de stockage d'énergie. Si mes souvenirs sont exacts, mais je ne suis pas un scientifique, la première batterie a été inventée par un Italien qui s'appelait Volta, je crois, en 1800. Depuis 1800, on cherche désespérément comment améliorer les batteries pour pouvoir stocker l'électricité. Et il y a eu mais des dizaines de milliers d'ingénieurs qui se sont cassés la tête et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc, il y a deux possibilités. On n'arrivera jamais à stocker l'électricité, ce qui est une possibilité inquiétante, mais qui est... Et si on n'arrive pas à stocker l'électricité, il faut avoir des sources d'électricité qui fonctionnent en temps continu, profondément, pour couvrir à peu près 90% des besoins. Puis on a 10% des besoins avec lesquels on joue, avec le voltaïque, avec le solaire ou avec l'éolien. Mais c'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on ferme le nucléaire. Et non seulement ça, mais en plus, non seulement on ferme le nucléaire, mais on réduit la rentabilité du nucléaire, parce que lui, mettons qu'il produise à, je ne sais pas, 30, on a signé des contrats avec le solaire ou les éoliennes pour leur acheter le truc à 130. Donc quand ils peuvent produire, EDF achète à 130 un truc qu'ils pourraient acheter à 30. Donc on garantit la rentabilité du machin qui ne marche pas et on attaque la rentabilité de celui qui serait nécessaire. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, quoi. On n'a pas idée d'être aussi bête. Et on le fait maintenant de plus en plus. Donc, dans l'économie, en principe, il faut d'abord tirer sur la ressource qui a la rentabilité marginale la plus forte, puis on va vers les autres au fur et à mesure qu'on en a besoin de plus en plus. Donc, logiquement, ce nucléaire devrait marcher à 100% tout le temps. Et puis, de temps en temps, on irait chercher un petit peu de voltaïque si on en a besoin et on le paierait un peu moins cher. On
Est-ce
fait le
que tu
contraire.
penses qu'on va avoir une phase de creux? Est-ce que tu penses qu'on va avoir, avec leur bêtise de décroissance, une phase où on va véritablement devoir vivre une décroissance avant qu'on revienne à une logique de grande personne et qu'on refasse des centrales nucléaires dignes
Mais
de
le
ce nom?
nucléaire, il faut 2, 3, 4, 5 ans parfois pour les faire. On
Ah
n'a
bah
qu'à
oui.
avoir 20, 20, 20, 20,
Pour les défaire et pour le
pour les
refaire.
défaire
Donc,
pour le
parce que
faire.
là, on a fermé des centrales qui étaient historiquement, qui devaient être fermées, qui
Qui
étaient
devait être
trop
fermé, mais
vieilles.
on a très bien découvert que les centrales, en fait, qu'on bâtissait soi-disant pour 40 ans, si on les a bien entretenues, elles peuvent durer encore 40 ans, il n'y a aucun problème, quoi.
Moi, je préférais qu'on joue pas trop avec ça, mais et qu'on ait des trucs un peu neufs. Tu vois, si on doit
Oui, on peut
investir dans un
faire.
truc, je préfère qu'on ait un truc un peu.
Un peu neuf,
Tu
oui,
vois.
mais c'est pas. C'est comme les avions, ça s'utilise, ça s'abîme pas, les avions, si on les entretient bien, ça peut voler jusqu'à la fin des temps, c'est simplement bon. Et donc, ce qu'on est en train de faire. Pour revenir à la première question, c'est que il y a des gens qui ont bâti des dossiers sur Alstom qui vont peut-être se terminer devant les juridictions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont aller en taule ou qui devraient aller en taule. Et je sais qu'il y a une partie des gilets jaunes qui vont commencer à lancer des procès publics où ils exposeront le dossier d'Alstom comme si c'était un tribunal. Il y aura comme un vrai tribunal. Avec un juge, des avocats, ils essaieront d'exposer ça au peuple français pour qu'il puisse ensuite voter dans la salle en disant est-ce que vous pensez qu'ils sont coupables ou pas coupables. Donc, en tout état de cause, ça fait quand même extraordinairement désordre. Et est-ce qu'on va avoir une pénurie? La pénurie est absolument certaine à l'horizon de 2 ou 3 ans. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le prix des énergies fossiles, du pétrole et du gaz, va exploser à la hausse. Parce que ça fait maintenant 10 ans que les grands groupes comme Exxon ou Total ne cherchent plus ni gaz ni pétrole. Leur budget de recherche a baissé de 60 ou 70%.
Oui, mais dans ces cas-là, ils vont réouvrir certaines forages en grandes eaux et ainsi de suite qu'ils ont fermé parce que c'était pas assez rentable. Parce
C'est possible, mais ça
que.
prendra 1, 2, 3 ans. Et puis, il ne faut pas oublier que ces grands groupes, eux, ils seront assis sur les réserves prouvées et ils gagnent beaucoup plus.
Sur une spéculation?
Non, ils gagnent beaucoup plus en ne rouvrant pas trop vite et en laissant
Bien
le
sûr.
prix monter qu'en rouvrant tout de suite. Leur but, c'est quand même de gagner de l'argent. ça fait 10 ans qu'on les empêche de gagner de l'argent, ils se diront, ben maintenant on va ouvrir avec une sage lenteur, quoi.
Histoire de montrer qui est le patron et
Ça.
négocier avec les politiques.
Négocier avec les politiques qui ne sont pas les mêmes, parce que le jour où les gens vont se balader les pieds nus dans la neige en France, à cause de ça, j'imagine que les politiques qui auront été responsables de ce désastre seront plus au pouvoir. On ne sait jamais, mais enfin, ils ont tellement massacré les atouts de la France que je ne vois pas pourquoi ils devraient rester au pouvoir, quoi. C'est-à-dire, on va avoir des gilets jaunes puissance 10.
Alors, ce qui m'amène à la question d'après, quand même, en logique, que penses-tu de ce que l'on appelle le grand reset? Et Nick te demandait aussi, est-ce que tu penses que l'on arrive à un déclin civilisationnel?
Alors, le grand reset, c'est quelque chose, oui, dont les gens parlent beaucoup. C'est grosso modo ce que pensent tous les gars qui vont à Davos. Hein, c'est les le symbole, le slogan de Davos, c'était ceux qui ont été quelque chose dans le passé rencontrent ceux qui ont espéré, se rencontrent ceux qui espèrent être quelqu'un dans le futur. Tu vois, c'est grosso modo là où se rencontrent, pour employer ma terminologie ou celle de Sowell, les oints du Seigneur, les gars qui sont nés pour vous gouverner. Alors, eux, leur but, c'est quand même un gouvernement mondial, puisque s'ils réussissent à convaincre les gens que nous sommes dans une période, par exemple, où nous avons une pollution par le CO2, c'est un problème qui ne peut être traité qu'au niveau mondial. Et donc, ben, les gouvernements n'ont rien à dire. Il faut appeler la production d'énergie au niveau mondial, contrôler tout ça au niveau mondial. Inutile de dire, c'est ce qu'ils appellent le grand reset. Mais que si quelqu'un contrôle la production d'énergie au niveau mondial, comme l'énergie c'est l'économie, il contrôle l'économie. Donc on va vers un système qui est contrôlé par le sommet, à la place d'un système qui est contrôlé par la base. Donc le grand reset, c'est certainement le grand rêve de M. Attali. Mais comme je le dis toujours, si vous avez suivi les conseils d'Attali depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, aujourd'hui vous êtes ruiné, quoi. Le type est d'une nullité totale. La bataille qu'on a aujourd'hui dans le monde entier du point de vue politique, et qui est très bien symbolisée en Hongrie par exemple, c'est la bataille d'Orban contre les mondiaux. Donc la vraie bataille, c'est les gars, c'est la responsabilité de la nation, l'identité et la souveraineté nationale contre cette espèce de gros machin international. Et la réalité, je viens de lire un livre de Girondeau qui est tout à fait remarquable, qui explique que toute cette histoire de réchauffement atmosphérique, c'est du pipeau.
Tu l'as rapporté, au fait?
Oui, mais je l'ai lu, il est très bien. Et je vais l'interroger, eh bien, à bientôt. Et c'est la première fois que je vois un livre où le type nous explique par A plus B comment c'est du pipeau et comment ils ont monté le coup de pipeau
Pour atteindre une
pour
gouvernance
atteindre les
mondiale.
populations. Par exemple, à un moment, il dit, si on demande aux Français, est-ce que la qualité de l'air s'est améliorée depuis 30 ans, en France, il y a 63% des Français qui disent non, non, elle s'est détériorée, et 1% qui dit elle s'est améliorée. Or, elle s'est extraordinairement améliorée. Il y a beaucoup moins de particules dans l'air, il y a beaucoup moins de saloperies, il y a beaucoup moins de... Donc, on est devant... la quasi-totalité des Français aujourd'hui sont persuadés que la qualité de l'air a baissé dans les villes. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et tout l'appareil de télévision, etc., n'arrête pas de dire la production ne cesse de baisser, la qualité ne cesse de baisser. Pourquoi ils y arrivent? Parce que la Commission européenne fait passer des tests de qualité qui deviennent de plus en plus durs. Et donc, ils vous disent, aujourd'hui, il y a 80% des villes qui ne passent pas les tests de qualité de l'Union européenne. Mais ils passent les tests de qualité d'il y a 20 ans sans problème. Et donc, il suffit de monter à un niveau quasiment inatteignable la qualité de l'air pour qu'on dise, regardez, nous ne cessons de perdre du terrain. Donc, on voit des espèces de manœuvres, mais qui sont des manœuvres de cuistre. Et ce à quoi je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est la presse devrait dénoncer ces trucs-là. Mais comme
La quoi?
la presse, oui, c'est ça.
Qui?
C'est ça, voilà,
Pardon?
qui? Pardon, qui? Oui. Donc, il y a une espèce de désinformation inimaginable qui a, en quelque sorte, les oints du Seigneur là ont pris le contrôle de la presse, mais le contrôle financier, le contrôle capitaliste de la presse, et se servent de ça pour développer leur accès au pouvoir, quoi. Et ce faisant, ils mentent sur à peu près tous les sujets. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette prééminence du mensonge.
D'accord, on est bien. Alors, maintenant que tu es bien échauffé, on va faire une
C'était le
petite
tour de piste
transition. Ça,
d'échauffement,
c'était
ça.
voilà, ça, c'était l'échauffement. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, Pascal Tripier-Constantin te demande quelle est ta position sur la question de l'immigration en premier, et par suite, quelle est ta position sur l'islam dans l'immigration, et quelle est par ailleurs ta position sur cette question en tant que croyant dans une approche civilisationnelle?
C'est
Une bonne question.
une bonne question, c'est une question extraordinairement casse-gueule.
C'est pour ça que j'ai attendu que tu sois échauffé.
Ben oui, voilà. Alors, je vais répondre de la façon suivante.
Donc il y a l'immigration, l'islam et la question civilisationnelle.
Certains des auditeurs ont peut-être entendu parler d'un homme qui s'appelait Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'était un des grands esprits français, comme il y en a eu beaucoup, qui a exercé, dans le fond, ses talents à l'université de Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, de 1945 à 2000, mettons. C'était à la fois un sociologue, un théologien, il faisait partie du Conseil de l'Église protestante en France, un analyste remarquable, il avait beaucoup de cordes à son arc, et il a été patron de la revue Esprit, qui était la grande revue protestante, donc, et c'était plutôt un homme que sur le plan politique était à gauche. Il était plutôt à gauche. Comme beaucoup de
Comme
protestants
beaucoup de
d'ailleurs.
protestants, j'allais
Comme beaucoup de
le
protestants. Et à la fin de sa vie, il a organisé une réunion à Bordeaux avec le recteur de la mosquée Al-Aqsa, qui est la grande mosquée sunnite au Caire, qui est un peu l'endroit où la théologie musulmane est enseignée, paraît-il, le mieux, bref. Et le thème du conseil de cette réunion qui a duré 3 jours, dont les minutes doivent être disponibles quelque part sur le net, je sais pas, c'était la religion musulmane est-elle compatible avec la démocratie? Et aussi bien le recteur de la mosquée d'Al-Aqsa que Jacques Ellul ont tous les deux conclu que non. Donc la première question, je reviens à la question sur
C'était
l'islam,
la deuxième.
c'est la deuxième. Si l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, puisque par exemple il y a une égalité entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que ça, eh bien, ça pose un problème. Pour ceux qui, en tout cas, sont attachés à la démocratie. La loi n'est pas égale pour tout le monde dans le monde islamique. Les croyants sont au-dessus. Ceux qui croient en un Dieu unique, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, sont en dessous. Ils doivent payer un impôt spécial, ce qui est déjà un problème. Et puis tout en bas, il y a les gars qui croient à rien et qu'on a le droit de tuer, quoi. C'est quand même les non-croyants. Donc ça n'est pas compatible avec la démocratie. Avec la démocratie. À la fin de sa vie, et Ellul, son dernier écrit, ça a été, que vous trouvez sur le net. Ça a été un petit livre qui doit faire 25 ou 30 pages sur justement l'islam, la démocratie, etc. Et il dit quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. Je suis fondamentalement pour l'immigration, mais je suis contre l'immigration islamique. C'est-à-dire qu'il dit, vous laissez rentrer tous les bouddhistes, parce qu'il dit, l'immigration islamique est une immigration de nature différente. C'est une immigration de conquête, parce que pour eux, et pour des raisons religieuses, le Coran, la charia, sont supérieurs à n'importe quelle constitution. Donc on ne peut pas avoir, si on a une position entre le Coran, la charia et notre constitution, eh bien, à ce moment-là, le musulman doit désobéir. Il ne peut pas être un bon citoyen. Donc, ça pose un problème essentiel. Il me semble qu'il faut le régler. Donc, il disait, laissez rentrer tous les bouddhistes, laissez rentrer tout ce que vous voulez, mais ne laissez pas rentrer les musulmans parce que c'est une immigration différente et que la religion musulmane ne s'est développée que par la force, la violence. Alors, on me dit, mais l'Église catholique aussi, sauf que quand Constantin est devenu catholique, l'empereur de Byzance, eh bien, le monde était déjà chrétien, alors qu'ils n'avaient pas, d'armes à l'époque. C'était pas le truc dominant. Donc, la religion chrétienne s'est développée dans le monde romain, par la base et sans violence. Ensuite, elle est devenue violente, je ne sais pas le contraire, mais en fait, l'origine, ça a été non-violent. Donc, on a un vrai problème d'inclusion de l'islam dans nos... C'est ce que disait Huntington dans son livre « La guerre des civilisations ». Il disait, le choc des civilisations, il disait les frontières de l'islam sont sanglantes partout. Donc, vous avez un vrai problème. Et je ne sais pas comment on va le traiter, mais refuser de le considérer est une erreur énorme, intellectuel,
civilisationnel.
Et comme le Coran est non écrit, il a été dicté par Dieu directement à Mahomet, ben on ne peut rien changer au texte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de concile disant ben écoutez, on va changer cette phrase parce qu'elle est malheureuse. Mais ça ne peut pas être malheureuse puisqu'elle a été dictée par Dieu.
Alors, sans transition. On va parler du pass sanitaire. Madame Florence Beldaesch te demande, je cite, « Que penses-tu d'un souverainiste qui défendrait le pass sanitaire? Peut-on être souverain de son corps sans liberté de pouvoir en disposer ?»
Ben, un souverainiste qui défendrait le pass sanitaire, ça peut peut-être exister. J'imagine que les nazis n'auraient pas vu de problème avec le pass sanitaire. Hein.
Arrête avec tes points Godwin. Ça va partir direct, ça. Il faut arrêter tout similarité avec le Troisième Reich.
Un souverainiste, c'est un gars qui se croit autorisé, parce qu'il représente le souverain, à donner des ordres aux autres et à les mettre en rang serré et marcher dans la même direction.
Non, ça, c'est pas un souverainiste. Un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit justement... il va falloir qu'on redéfinisse nos termes, d'accord. Mais dans l'absolu, les souverainistes sont plutôt pour une liberté individuelle.
Surtout pour la liberté de la nation et
Non, mais regarde, Philippot, il se considère comme souverainiste et tu es allé à des passes de liberté contre le pass sanitaire.
Contre le pass sanitaire. Mais il y a des souverainistes qui... Ce que je veux dire, c'est que le souverainiste peut être pour ou contre.
Oui.
Tandis que le libéral, il ne peut pas être pour.
Non, le libéral ne peut pas être pour.
Le libéral peut pas être pour. Moi, je suis un libéral souverain, parce que puisque je suis pour l'égalité devant la loi, le seul monde que j'envisage, c'est celui où la loi est exercée au nom du peuple dans une nation. Et donc, automatiquement, je suis libéral, puisque l'égalité devant la loi, c'est la base du libéralisme, dans une nation, puisque le seul endroit où il peut y avoir une loi qui soit acceptée par la population, c'est dans une nation.
Donc toi, ce que tu dis, c'est vous voulez vous faire vacciner, c'est super qu'il y ait ce moyen scientifique, faites-le.
Très bien.
C'est votre corps.
C'est votre corps, voilà. Faites ce que vous voulez.
Mais en revanche, c'est vrai que dans une certaine mesure...
On n'a pas le droit de m'empêcher de bouger parce que j'ai refusé de le faire.
Voilà, surtout, et dans la mesure où ce vaccin, qui n'en est pas un, ne protège pas autrui de moi, je n'ai pas d'incitation non plus à me faire vacciner. Parce qu'à la rigueur, s'il y avait eu l'argument pour moi de pouvoir dire « Écoutez, faites-vous vacciner parce que vous allez protéger les petites vieilles », je l'aurais fait pour les petites vieilles. Mais comme je ne protège pas les petites vieilles, que je sois vaccinée ou pas, je me dis « Bah, quoi bon ?»
Non seulement ça, et je ne connais pas les effets secondaires à long terme.
Oui, alors ça, à la rigueur, c'est moi qui pourrais prendre le risque. Mais je pourrais dire « Bon, voilà, par altruisme, parce qu'on vit en société, parce qu'on n'est pas des chiens, mais parce qu'on pense aux autres. » Mais là, je me dis « Mais même si je le fais, de toute façon, ça change rien. »
Ça change rien. Et alors, ce qui m'amène à une petite remarque incidente, c'est que je ne comprends pas cette folie de vaccin. Apparemment, il y a un médicament qui a l'air de le marché aujourd'hui, qui s'appelle l'ivermectine.
Oui, l'ivermectine.
Et qui semble traiter le problème. Si on a des médicaments qui traitent ça, c'est comme on a des médicaments qui traitent la grippe, allez. Pourquoi s'acharner sur ce virus? Parce que ce médicament coûte rien, alors le virus coûte la peau des fesses. Donc, est-ce que c'est
le vaccin
coûte la peau des fesses. Est-ce que c'est parce que c'est les groupes pharmaceutiques qui mettent une pression inimaginable pour qu'on vaccine la population tous les ans, ce qui leur fait une rente de situation pas possible?
Sans compter que certains parlent de 3 doses aujourd'hui.
Parlent de 3 doses, et puis qu'il faut refaire tous les 2 ans.
Tous les ans.
Tandis que moi, mon tétanos que j'ai dû faire quand j'avais 15 ans.
C'est tous les 10 ans. Le rappel du tétanos, il y a un rappel vers 42 ans. Je l'ai refait, t'as le bras comme ça. Mais effectivement, tu le refais pas tous les ans. La rage, on a arrêté de devoir le faire, il y en a plus. Mais on fait tétanos, diphtérie, polio, en général dans le même vaccin, avec des rappels attends, ça doit être tous les 25 ans.
Et ce sont des vaccins, c'est-à-dire qu'on a pris la maladie,
on l'a fait toute petite.
On l'a fait toute petite, et à partir de là, notre corps crée les anticorps, tandis que là, c'est pas des vrais vaccins. Quand je discute avec des gens qui ont l'air d'y connaître quelque chose, ils n'ont pas l'air de considérer que c'est un vaccin. Ils ont l'air de considérer que c'est une mutation qu'on introduit dans notre corps. Donc ça me gêne un peu. Donc la réponse à la question, c'est on peut être souverainiste, mais on peut pas être libéral.
Les
souverainistes qui sont d'accord, j'ai pas une grosse affection pour eux. Ils m'inquiètent beaucoup même.
Ils t'inquiètent. Moi aussi, ils m'inquiètent un peu. Je place toujours le choix individuel au-dessus de la norme sociétale.
Absolument.
En fait, c'est un peu ça la question. Est-ce que tu places la liberté individuelle au-dessus d'une sorte de considération sociétale de « nous, on sait, donc faites donc ce qu'on vous dit ».
Nous, on sait, faites donc ce qu'on vous dit, mais on n'a pas encore les preuves que ça marche vraiment. C'est-à-dire que autant
et puis c'est pas comme si on avait eu le Distilbène, le sang contaminé. C'est pas comme si notre État en sécurité sociale nous avait prouvé un grand savoir-faire.
Non, ils l'ont pas montré.
L'hépatite C, on en a eu.
On en a eu beaucoup de dégâts faits par des sachants. Voilà. Méfions-nous des sachants.
Voilà. Toutes les Georgina du foie de ce monde. Alors, on va faire une petite transition et je vais t'amener sur les questions financières monétaires parce qu'évidemment, on en a aussi beaucoup.
Oui, bien sûr.
Alors, j'ai Carizoc qui me demande si le franc suisse est toujours pour toi une monnaie refuge parce que le bilan de la BNS a changé. Il est composé principalement d'US dollars et d'euros. Et même si les Suisses ont claqué la porte de l'UE tout récemment, cela a-t-il vraiment de l'importance? Et donc, le franc suisse est-il encore un refuge?
Ah oui, le franc suisse est un refuge parce qu'il y a la stabilité juridique de la Suisse est considérable. Il y a droit de propriété, vote populaire pour toutes les questions importantes. Donc c'est certainement un refuge. Alors ce que fait la Suisse aujourd'hui, qui est assez rusé, c'est que tout le monde doit avoir du franc suisse. Donc le franc suisse devrait monter quasiment à l'infini. Alors, ce que fait la Banque nationale suisse, ils sont pas nés de la dernière pluie, c'est qu'ils achètent par exemple des dollars, puisqu'il y en a trop, et puis ils se retournent, et à la place de les convertir en francs suisses, ils reprennent leurs dollars et ils vont acheter immédiatement des actions aux États-Unis. En se disant, on fait une espèce de swap, et comme ça a assez peu d'influence sur le franc suisse, c'est-à-dire que ça n'empêche que le nombre de francs suisses augmente, mais il n'augmente pas à due concurrence de ce qui se passe par ailleurs. Et du coup, les Suisses se retrouvent aujourd'hui propriétaires, les plus gros propriétaires de toute une série de grandes sociétés américaines comme Google ou n'importe quoi. Donc, dans le temps, ce qu'aurait dû faire la Banque nationale si elle était rusée, le truc normal, c'est qu'on leur achetait, ils prenaient des dollars, et avec ces dollars, ils achetaient des obligations de l'État américain.
Mais aujourd'hui, il ne faut plus acheter d'obligations.
Ils savent que ça ne vaut rien, donc ils se disent, à la place d'acheter des obligations américaines, ils font ce que moi je conseille aux gens de faire.
Oui. C'est d'acheter du air liquide.
C'est acheter du air liquide ou du air liquide américain, puisqu'ils ont trop.
Du Google
ou n'importe quoi.
Donc,
quelque part, quand le dollar se pètera la gueule, ils se retrouveront à la tête d'un portefeuille qui vaudra quelque chose. Qui vaudra moins qu'est-ce qu'ils
vont. Et ils n'osent pas prendre des obligations asiatiques?
Pour l'instant, ils n'osent pas des masses. Alors, à mon avis, ils ont dû commencer à acheter en douce des obligations suisses. Des obligations chinoises, mais par contre, je pense aussi qu'ils doivent acheter de l'or. Avec ça, ils doivent acheter de l'or. On ne leur reprochera jamais. On n'a jamais engueulé un banquier central parce qu'il avait acheté de l'or. Hein. On l'a parfois engueulé quand il l'avait vendu, comme les Anglais avec Buster Brown dans les années 90. C'est un refuge. Le problème du franc suisse, c'est qu'il ne paye rien du tout, ou même il paye moins. Enfin, je veux dire, il a des taux négatifs, et pour des bonnes raisons, puisque tout le monde en veut. Et donc, quand tu réfléchis sur l'échange, et là je vais faire une notion qui est difficile à comprendre pour les gens, il faut que vous vous accrochiez. Par exemple, tout le monde vous dit la livre sterling s'est pété la gueule. Depuis...
Le Brexit,
bon. Vous regardez, en effet, il y a eu une petite baisse de la livre sterling contre les monnaies de l'euro. Mais si vous rajoutez les taux d'intérêt que la livre sterling a payé et les taux d'intérêt que l'euro a payé, la livre sterling a fait beaucoup mieux.
D'accord. Donc si tu es un investisseur, tu es content d'avoir placé tes sous en
En
livre
livre sterling,
sterling,
même si elle a baissé.
même si elle a
Parce
baissé,
que tu as
parce
gagné
que...
plus. Mais le franc suisse, c'est l'inverse. Il monte tout le temps, cette saloperie, mais en fait, il paye tellement peu, depuis toujours, qu'en fait, tu gagnes pas tellement d'argent avec le franc suisse.
Mais t'en perds pas. Donc en tant que valeur refuge,
En
ça
tant que
reste un
valeur refuge,
refuge.
c'est pas mal. En tant que valeur refuge, c'est pas mal.
Mais si tu veux faire un portefeuille, par contre, il vaut mieux aller sur des actions parce que tu n'as pas de dividendes. Là, du
Voilà, j'ai
coup,
pas de dividendes, j'ai moins.
tu as moins puisque
Je
tu...
paye des taux d'intérêt négatifs. Donc, c'est un refuge, mais à mon avis, c'est ce que vous pouvez faire avec du franc suisse.
Mais c'est pas mieux que de l'or.
C'est pas mieux que de l'or, non, mais ce que vous pouvez faire avec du franc suisse, c'est que vous achetez des beaux billets suisses. Vous savez, je crois qu'il y a un billet de 1000 francs suisses ou un truc comme ça qui commence à, ça commence à faire du pognon. Et vous le mettez soigneusement dans votre coffre. Et vous l'argent. Moi, j'avais une famille que je connaissais il y a de longtemps en France, qui avait du bien depuis très, très, très longtemps. Et l'un des petits-fils ou arrière-petits-fils avait été voir un jour dans le compte d'un de ses grands-pères qu'il avait découvert dans une banque suisse. Ces choses-là se passaient, vous savez, autrefois. Les familles avaient des comptes en Suisse. Eh bien, il a trouvé des billets francs-suisses qui remontaient à 1920, mais qui étaient toujours valables. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec quelques milliers de francs suisses. Donc, mettre un petit peu de francs suisses
Dans un coffre.
dans un coffre en France, c'est parfaitement légal. Et en 1942, c'était utile, quoi.
Ouais. Alors, quels seraient tes conseils à un nouveau diplômé en matière d'investissement et est-ce que les crypto-monnaies devraient faire partie du tableau pour toi?
Alors les crypto-monnaies, on est en train de travailler dessus à GAFCAL avec des tas de choses, on essaye de comprendre. Il y a plusieurs choses, vous avez la notion de crypto-monnaie, puis vous avez la notion de chaîne, etc., de blockchain. La notion de blockchain, c'est très intéressant. Je crois qu'il faut surveiller avec énormément d'intérêt l'arrivée du crypto-yuan. Parce que les Chinois vont commencer à sortir un crypto-yuan qui sera garanti par l'État chinois. Donc, si vous avez de l'argent, vous le mettez en crypto-yuan. Et moi, par exemple, je me bagarre, mais quasiment toutes les semaines, quand je veux faire une opération en France, avec ma banque en France, pour envoyer de l'argent à droite et à gauche. Ils veulent pas, ils téléphonent tout de suite au ministère des Finances pour savoir si j'ai le droit ou si j'ai pas le droit. Donc les banques françaises sont devenues un endroit où la délation. Bon, font les banques françaises n'ont qu'une seule leur raison d'exister aujourd'hui, c'est de dénoncer le contribuable au fisc, compte tenu de nouvelles réglementations. Ben, à partir du moment où vous serez dans le crypto-yuan, vous aurez cet argent qui sera à vous, que vous aurez dans votre téléphone. Et vous en ferez ce que vous voudrez quand vous voudrez. C'est-à-dire que vous allez non pas tourner les réglementations, mais vous allez à partir de ce crypto-yuan faire ce que vous faites de votre fric sans demander la permission à la banque ni au ministère des Finances. Et je ne sais pas quelle va être la réaction des banques et du ministère des Finances, mais ça ne va pas leur plaire, quoi, parce que leurs dépôts vont disparaître. Mais ça ne sera pas illégal. Donc pour moi, le truc qui risque d'arriver, c'est le crypto-yuan. Hein, parce qu'à ce moment-là, vous ferez vraiment ce que vous faites et vous investirez comme vous voulez dans votre téléphone et personne ne saura ce que vous avez. Sauf le gouvernement chinois, ce dont je me contrefous, parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement américain et le gouvernement français qui sont au courant. Donc je ne sais pas s'ils sont pires ou meilleurs que le gouvernement chinois, mais je pense que le gouvernement chinois s'intéressera beaucoup moins à moi que le gouvernement français ne s'intéresse à moi.
Alors, dans la même verve, Gobi te demande, puisque la monnaie est un bien commun, ne devrait-on pas faire en sorte qu'il n'y ait qu'une banque centrale mondiale, genre une seule banque centrale pour tout le monde? Et sinon, que penser de la séparation des banques de dépôt et des banques financières?
Alors, la Banque mondiale, non, c'est une très très mauvaise idée parce que vous avez ce que je dis toujours, par exemple la France, pour des raisons historiques et culturelles, a 70% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Bon, ben, c'est le secteur privé français qui paye le coût du siège social français qui a 70% de fonctionnaires de plus que le siège social allemand. Donc, ben, si vous faites ça, si vous n'avez qu'une monnaie mondiale et qu'il n'y a pas de ces mécanismes d'ajustement, ben, il n'y aura plus une industrie en France dans 10 ans, quoi. C'est ce qu'on voit avec l'euro. Donc c'est complètement idiot. Donc chaque pays doit avoir sa banque centrale. Encore une fois, je renvoie à la Bible et à... comment ça s'appelait l'endroit où ils sont tous mis sur la gueule quand ils ont bâti une tour qui allait...
La tour de Babel.
La tour de Babel, donc. Chaque pays a droit à sa monnaie, puisque la monnaie, c'est l'expression de la volonté du pays de vivre ensemble. Donc, s'ils s'entendent pas bien, la monnaie sera faible. S'ils s'entendent très très bien, comme en Suisse, la monnaie sera forte. Mais vous pouvez pas avoir toutes, puisque les monnaies reflètent la productivité. Donc, très bien, c'est une fausse bonne idée. La vérité existe dans la diversité, pas dans l'unanimité. L'unanimité, c'est une erreur. Bon, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était quoi déjà ?
La deuxième question, c'était la séparation des banques de dépôt et des banques financières.
Alors, voilà, ça, c'est une question très importante. Parce que la banque de dépôt, si vous voulez, c'est l'endroit où vous laissez votre fric et vous n'y connaissez pas grand-chose et vous ne demandez rien à personne.
C'est le Crédit Agricole.
C'est le Crédit Agricole ou c'est la Poste.
Voilà, tu mets ton salaire, voilà. Et puis tu joues pas avec, c'est juste pour payer EDF, tes courses,
c'est là, c'est l'endroit.
Voilà. Et celle-là, on devrait pas y toucher.
Celle-là, elle devrait avoir le droit de faire assez peu d'opérations spéculatives. Elle devrait, dans le fond, littéralement acheter des obligations d'État.
Peut-être, et de l'or.
et de l'or, et pas s'amuser à faire des saloperies. Et puis vous avez... Les banques d'affaires...
Qui autrefois étaient la Banque de Suez, la banque Rothschild...
Elles prennent des participations et prennent des risques avec l'argent des associés. Et en principe, dans le temps, les banques d'affaires étaient responsables sur l'ensemble de leurs fonds propres.
Oui, c'était quand tu parlais de ton vieil ami, M. Gutzwiller, ils étaient responsables sur
l'ensemble de leurs fonds propres. Et de leur fortune personnelle.
Oui, oui.
Et ça,
tout était
dans une bonne banque d'affaires au 19e ou au début du 20e, s'il y avait 4 ou 5 associés dans la banque d'affaires, ils étaient tous dans la même pièce. De façon à ce que les 4 autres sachent que faisait le 5e. Mais qu'il n'y en ait pas un qui prenne des positions imbéciles et qui foute la banque en l'air sans que les 4 autres soient au courant. Mais depuis la fin des années Clinton, dans le monde entier, on a fusionné les banques d'affaires et les banques de dépôt.
Donc ça, c'était le Glass-Steagall Act.
Et fusionner une banque d'affaires et une banque de dépôt, c'est fusionner le casino et la poste. C'est pas parce qu'elles s'appellent toutes les deux les banques qu'elles font la même chose. C'est-à-dire, ce qu'on fait à ce moment-là, les grandes banques, les types qui ont fait ça, c'est que les types de la banque d'affaires, étant beaucoup plus malins que les types de la banque de dépôt, ont pris le pouvoir. Et ont pris les dépôts des gens en dessous, des petits gens, pour s'amuser à chepiler, mais plus avec leur fric comme ils le faisaient, avec votre fric.
Avec le fric des petites retraites.
Et ça, c'est complètement inadmissible. Logiquement.
Parce que surtout les gens qui ont mis leur pognon là à la poste, ils ne l'ont pas fait pour chepiler.
D'abord, ils ne l'ont pas fait pour chepiler, ils ne savent même pas que le type chepile. Et en plus, si ça marche pas, c'est lui qui risque de prendre la note, alors que l'autre, il aura rien, puisqu'il sera mis...
Faut que t'expliques c'est quoi chepiler, au fait.
Chepiler, c'est simplement...
Je crois que c'est un terme yiddish.
C'est un terme yiddish qui vient de la bourse de New York, qui veut dire vous achetez à peu près 100 fois votre mise, quoi.
Ça veut dire spéculer, mais très très fort.
Très 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 fort, et avec des effets de levier gigantesques. Donc, celui qui a permis la fusion des banques d'affaires et des banques de dépôt en France, qui a été à l'origine de tous nos malheurs, c'était un gars qui s'appelait Michel Debré. C'était donc il y a très longtemps.
Ils sont responsables de toutes les choses horribles qu'on a fait sous la Ve.
Absolument. Michel Debré, c'était le désastre absolu. Bref, on en reparlera un jour, parce que c'est quand même un drôle de gars. Et il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que logiquement, une banque, ça doit être non seulement très conservateur, mais... Ça peut prêter de l'argent aux gens du coin, mais on gagne beaucoup à avoir beaucoup de banques et des banques qui sont quasiment régionales. Hein. C'est-à-dire que le patron de la banque qui va prêter de l'argent à l'industriel local joue au golf avec lui et sache que c'est un homme honorable. Tandis que pas du tout, maintenant, on fait tourner des tableaux Excel. Et on prête de l'argent à des gens en fonction de leurs actifs et non plus du tout en fonction de leur personnalité. Un type comme Pierpont Morgan, le grand banquier américain qui a créé la banque Morgan, qui est un peu la banque centrale des banques commerciales, donc c'est une bête un peu curieuse, mais très puissante, disait toujours, entre un homme qui a des actifs et un homme qui a de l'éthique, je prêterai toujours à celui qui a de l'éthique. Or aujourd'hui, on a un système qui ne prête qu'aux actifs et pas à l'éthique. Donc, pour qu'on puisse represser à l'éthique, il faut qu'il y ait connaissance par le banquier local de son client local et qu'il y ait un contrat de confiance qui soit établi entre les deux. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a bâti un système aujourd'hui qui est fait pour favoriser la fraude et les excès.
Bon, bah écoute, il va falloir, parce que Charles doit partir, mais je vais quand même finir sur deux petites questions
Oui.
qui ont été posées, qui n'ont rien à voir et qui sont en dehors des thèmes, mais qui sont rigolotes. La qualité que tu préfères chez un homme? Chez un homme au sens large, hein, ça peut être
Chez
une
un
femme.
homme, au sens large, c'est la capacité à dire la vérité, c'est-à-dire qu'on puisse lui faire confiance. Il ne se couchera pas parce que je suis puissant. Il me dira, non, non, tu es en train de dire une connerie, mais sans méchanceté. C'est-à-dire que une espèce de relation à l'autre qui n'est pas une relation de servilité, mais une relation de confiance en disant, on peut se parler, quoi.
Alors celui-là, je sais qu'il va être difficile pour toi parce que c'est pas ton caractère, mais le personnage historique que tu méprises le plus.
Personnage bah, historique que je méprise le plus. J'ai souvent pensé à des personnages historiques que j'aimais bien, que je méprisais. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais c'est peut-être Ponce Pilate. Parce que Ponce Pilate savait que le Christ était innocent. Mais pour pas avoir d'emmerdement avec les Juifs,
Il s'en est lavé les mains.
il s'en est lavé les mains. Donc le type qui s'en lave les mains,
Il n'y a pas de courage.
qui dans le fond cherche à
Devant
faire
une vérité,
carrière,
parce qu'à la
devant une
rigueur,
vérité,
tu peux te laver les mains en te disant, je sais pas.
je sais pas, tu dis je peux pas trancher.
Mais lui, il savait.
Mais lui, il savait que le Christ était innocent et il l'a condamné pour pas avoir d'emmerdement.
Donc ça, c'est de la lâcheté.
Et ça, c'est vraiment de la lâcheté. Et c'est de la lâcheté dans une position de
Ton
puissance.
pouvoir,
C'est de
qui est
la lâcheté
différent de
dans
la
le pouvoir.
lâcheté.
Si tu es en bas, que tu es un pauvre gars, que tu sois lâche, mon Dieu, on peut le comprendre. Mais si tu es en position de pouvoir et que tu es lâche, à ce moment-là, ça amène à des grands, grands désastres.
Et en dernière question, attention, c'est une question très difficile. Et t'as pas le droit de dire la Bible, le livre que tu aurais voulu écrire.
Le livre que j'aurais voulu écrire, ben c'est probablement le livre de Bertrand Jouvenel qui s'appelle Du pouvoir. Parce que c'est une espèce d'analyse extraordinaire de la façon dont le pouvoir politique croît de façon ininterrompue et sans que tu puisses vraiment l'arrêter. Et c'est une espèce de. J'ai été fasciné par ce livre parce que c'est la première fois que je voyais la description d'un phénomène comme cette croissance perpétuelle de l'État, expliquée de façon parfaitement calme et parfaitement comme quelque chose d'inévitable. Donc je crois que c'est un des exercices les plus extraordinaires que j'ai vu de logique pure, en disant, vous voyez, si vous faites ça mène automatiquement à ça. Et donc du pouvoir, ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé. D'ailleurs, quand j'écris, très souvent,
Tu repenses à lui.
je repense à lui, puis je vais lui piquer des phrases, je vais lui piquer des idées sans le mentionner, parce que...
Bien sûr, voilà. Bah écoute, voilà, merci beaucoup. Ceci termine donc notre petit exercice de poser vos questions à Charles Gave qu'on essaiera de faire de temps en temps. Je garderai les questions que vous m'avez posées déjà et les reposerai à ce moment-là. J'espère que vous aurez été satisfait des réponses. Et voilà, n'hésitez pas à nous reposer des questions et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'économie expliquée par mon père.
Allez,
Merci
Biarritz.
beaucoup. Et allez, Biarritz. Merci beaucoup.